Aujourd'hui, à rencontre, Jean Sullivan. Jean Sullivan est l'auteur de romans, de récits, de nouvelles et d'essais. Il y a quelque temps, il publiait chez Gallimard un nouveau roman, Joie errante. Dans ce récit, à la fois tragique et joyeux, Jean Sullivan se place dans la lignée des Léon Blois, des Peggy et des Bernanos. Écrivain mystique comme eux, il sape les préjugés, renverse les idoles pour affirmer la vérité qui est au cœur de l'homme. Malgré des problèmes visuels qui l'ont forcé à garder des lunettes noires tout au long de l'entretien, Jean Sullivan a accepté de rencontrer chez lui Marcel Brisebois.
Monsieur Sullivan, vous avez écrit dans votre livre « Petite littérature individuelle » « Je me suis réveillé à 40 ans ». Comment vous êtes-vous réveillé? De quel sommeil?
Vous savez, quand on est éveillé, normalement, on doit s'apercevoir que c'est encore un sommeil. Et il faut toujours s'éveiller d'un nouveau sommeil. Jamais on ne s'éveille. Vous savez, les écrivains disent un tas de choses. Alors j'ai dit ça, mais c'est très faux. Je dors encore.
Comment savez-vous que vous dormez?
Parce que si j'étais vraiment éveillé, je me mettrais en marche. Non pas pour aller parler, sans doute, mais pour faire quelque chose qui serait accordé à ce que je sens, à ce que je pense, tandis que je reste là, enfermé dans mon château fort, à penser, à écrire, à mijoter, enfin, des sentiments et des idées.
Vous avez écrit dans Joie errante, votre dernier livre, « Une voix parle en moi ». Quelle est cette voix qui parle en vous?
Je ne sais pas. Peut-être que ce sont, comme on dit, des traumatismes de l'enfance, mes cicatrices qui parlent. Mais ça m'est égal. Peut-être que ce sont, autrement dit, des résidus, mais peut-être aussi que dans ces résidus, il y a des germes. Ça me gênerait de savoir. En supposant que je puisse savoir qu'il s'agit d'une voix qui parle de transcendance, etc., ce serait terrifiant. Je me méfie des gens qui savent, parce qu'ils sont puants. Ils se prennent au sérieux. Moi, j'aurais peur de me prendre au sérieux et de dire, attention, la voix qui parle en moi, ce n'est pas la mienne, c'est celle de Dieu ou de l'Évangile. Ça, je n'en sais rien, il ne faut pas le savoir. Voilà. C'est à chacun de prendre ce qu'il y a à prendre. Moi, je puis dire quand même que je fais confiance à cette voix et que, disons, j'espère qu'elle signifie quelque chose. Mais je n'ai pas besoin de certitude. Voilà.
Vous avez parlé de vos cicatrices à plusieurs reprises, aussi bien dans Petite littérature individuelle que dans Joie errante. Vous dites de vous-même que vous êtes un fils de tué. Est-ce que c'est votre cicatrice? Est-ce que c'est la principale de vos cicatrices?
Probablement.
Qu'est-ce que ça veut dire?
J'ai pris conscience à un âge avancé que, en effet, ce que je croyais qui m'était propre, ce qui faisait ma différence, j'avais la naïveté de croire que c'était quelque chose de conquis, que c'était un regard sur le monde qui me faisait rejeter la société, choisir une certaine voie de solitude, de hauteur. Et progressivement, je me suis aperçu que cela tenait au fait que, n'ayant pas de père, n'ayant pas connu mon père, mon père ayant été tué, je me solidarisais avec la mort du père. Et au fond, ce n'est que plus tard que j'ai appris toutes les théories que l'on a écrites là-dessus, que Freud a parlé, Jung, etc. Mais pour moi, ça a été une expérience très progressive, si vous voulez, et qui ne m'a pas, comment dire, découragé, qui ne m'a pas empêché de continuer à écrire, à parler, mais qui a affecté ce que je disais d'un signe d'humour, disons, d'un point d'ironie. Voilà.
Mais il y a autre chose que l'ironie quand même chez vous, il y a la tendresse aussi.
Tout ça va ensemble.
Comment ?
Vous savez, la tendresse sans l'ironie, moi j'aime pas beaucoup la tendresse. Je pense que ce qui est profond ne se manifeste pas au dehors ou se manifeste avec pudeur, avec discrétion. Plus les choses sont profondes et plus elles sont masquées, si vous voulez. Alors, je crois qu'il y a dans beaucoup d'ironie une tendresse secrète. Voyez. Mais il faut aller la chercher. Elle n'est pas facile. Même dans le cynisme aussi. Beaucoup de cyniques sont des tendres, hein, mais qui ne se l'avouent pas, ou qui ont assez de pudeur pour ne pas le manifester.
Vous-même, vous avez écrit « Je passe une partie de ma vie à me cacher pour moins souffrir ». C'est vers la fin de Joie errante, si je me trompe.
Oui, parce que je puis dire que sans le savoir, j'ai été, comme la plupart des chrétiens, finalement un stoïcien. Qu'est-ce que c'est que le stoïcien ? C'est quelqu'un qui se fait une certaine représentation du monde, qui se durcit en face de la réalité, qui se dissout, qui est toujours aux prises avec la mort, qui se statufie, pour ainsi dire. C'est beau, ça a de la gueule, c'est Montherland, si vous voulez, après Sénèque, etc., Épictète. Mais finalement, c'est très médiocre, c'est très faux, c'est de la comédie, c'est de la grimace, et ça, j'en ai pris une conscience aiguë. Mon admiration pour Montherland a souffert beaucoup, je me suis détaché de tout ça. Bon, à un moment, j'ai su qu'il était beaucoup plus humain de consentir à se tordre les mains de douleur, à pleurer, à souffrir, et à avouer que l'on souffre, et à se montrer, mais pas très brillant, pas héroïque. J'ai compris que c'était beaucoup mieux, que c'était ça, la vérité de la vie, la vérité de l'instant, si vous voulez. Mais cela dit, en fait, je m'aperçois bien que je continue comme tout le monde à me défendre, à me protéger. Mais je sais, la différence, c'est que maintenant, je sais que c'est un mensonge. Vous comprenez ?
Vos personnages, ceux de Géry, Josse, ceux qu'on trouve dans Joie errante, sont aussi des gens qui souffrent énormément.
Oui, mais qui ne se défendent pas.
C'est ça.
Qui se laissent porter par la vie, avec la douleur et en même temps la joie. Parce que finalement, je crois que la joie, on la trouve au-delà du plaisir. Elle est disons que le plaisir, quand il est dominé, quand il est soumis à une certaine ascèse, débouche sur la joie. Et que la douleur aussi, quand elle est assumée, et la mort, quand on assume la mort, quand on adhère à sa mort, dans l'instant, à ce moment-là, au-delà par conséquent de la déception, au-delà de la désillusion, il y a une joie possible. Seulement, la plupart du temps, les hommes refusent de passer par cette désillusion, par cette déception. Ils adhèrent au plaisir et ils refoulent la mort. Or, la mort refoulée, c'est soit par le plaisir de tous les divertissements, par le travail d'ailleurs, par l'amour, disons, fonctionnel et tout ça. La mort refoulée empoisonne toute l'existence. Regardez, dans nos villes, il n'y a plus... La mort n'existe plus. Vous comprenez ?
Elle est évacuée, oui.
Elle est évacuée complètement. Parce que les gens ne veulent pas la voir. Et ne voulant pas la voir, elle est en eux. Elle travaille en eux. Et je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais demandez à quelqu'un... tu n'as pas peur de la mort ? Tu penses, oui, du non, moi, non. Non. Ça, c'est significatif. Très souvent, ça veut dire que tout cela passe dans une action frénétique, par exemple, pour gagner de l'argent, afin d'avoir des villas au bord de la mer, que sais-je, enfin, acquérir une certaine puissance, des prestiges, etc. Ça, c'est la mort qui est à l'œuvre, vous comprenez, et qui détruit les gens, d'ailleurs, beaucoup plus rapidement. Et alors, je veux dire que cette joie, qui pour moi est essentielle, que j'appelle joie errante, elle arrive après cette expérience difficile. On ne peut pas la faire, la décider, cette expérience. Elle survient. Elle survient, elle s'abat sur un homme. À la suite de quoi ? J'en sais rien. Un choc... une illumination brutale. Et alors après, la vie est autre. Vous savez que vous êtes en sursis. Que vous ayez 20, 40, 50 ou 70 ans, c'est à peu près pareil. Vous êtes en sursis de toute manière. Et vous vivez l'instant. Qu'est-ce que c'est que l'instant ? L'instant, c'est la rencontre entre le passé qui n'est plus, l'avenir qui n'est pas encore, c'est l'étincelle que font la vie et la mort, le brasillement. Vous comprenez ? Cet instant que nous vivons ensemble, il n'est déjà plus. Ça fuse. Vous comprenez ? Et c'est ça, la mort. Et je ne peux vivre l'instant que si j'adhère à la vie et en même temps à la mort qui est inséparable de la vie. Alors, si vous voulez, je crois que ces personnages dont vous me parlez, Géry, Joss, etc., et le narrateur, sont des gens qui ont découvert cet instant. Et pour ça, peut-être qu'ils sont, disons, quelque chose comme une joie à travers une vie difficile.
Vous avez d'ailleurs des exigences de difficulté, n'est-ce pas ? Vous dites vous-même, quelque part, vers la fin du livre, toujours, « Joie errante ». Vous dites, n'est-ce pas, que vous voulez enseigner aux hommes, le narrateur dit, je voudrais enseigner aux hommes une morale qui passe à travers le feu, n'est-ce pas ? Donc, si vous rejetez le stoïcisme, ce n'est pas quand même par complaisance, par goût de la facilité ou des choses pareilles.
Oui, ce sont des choses difficiles, ça, à faire comprendre à beaucoup de gens. Si vous voulez, dans ce livre... Le narrateur a beaucoup de sympathie pour l'érotisme, par exemple.
Oui.
Tout ce qui se passe dans la 42e rue...
Que vous appelez le plus grand dérisoire du monde.
Le plus grand désiroir.
Désiroir,
oui,
pardon.
Désiroir du monde. Enfin, il y a des désiroirs aussi à Paris, du côté de Pigalle et tout ça, bien entendu. Mais d'ailleurs, ce sont les villes qui sont des désiroirs. La ville est faite pour le désir. Si vous voulez, pour la consommation de toute manière, et pour la prostitution. Prostitution non seulement des prostituées, mais de tout, de la presse, du commerce,
de l'intelligence,
etc. De l'intelligence, bon. Alors, on peut se dire, mais c'est une manière, c'est céder à la facilité, au monde moderne. Mais non, c'est simplement l'adhésion à la vie telle qu'elle est. Parce que le désir, c'est la réalité de la vie. Parce que l'érotisme, c'est la réalité de la vie. Ou la pornographie qui est l'érotisme des autres, comme vous le savez. Tout ça, ça fait partie de la réalité de la vie. C'est inutile de se masquer ça. Que les pouvoirs publics, les flics, les différentes autorités s'arrangent pour rendre la rue salubre, etc. Moi, je vois aucune espèce d'inconvénient, parce que la liberté existe pour tout le monde, et donc il est absolument indispensable qu'il y ait une certaine hygiène mentale qui soit possible, enfin, qu'il n'y ait pas partout des agressions sous toutes leurs formes, bien sûr. Mais, cela dit, spirituellement parlant, ou chrétiennement parlant, cela n'a aucune espèce d'importance. La morale ne monte ni ne baisse, pas plus que la foi d'ailleurs. Il y a simplement des réalités qui sont à qualifier. Elles peuvent prendre un sens, de toute manière. Ou bien elles dégradent les individus, ou bien elles leur permettent de donner une signification à leur vie, de se situer par rapport à ce qui est. Voilà. Il n'y a pas le bien, le mal, le bien d'un côté, le mal de l'autre, tout ça pousse ensemble dans une espèce de jaillissement, c'est le monde qui se crée, se décrée sans cesse, si vous voulez, et l'homme qui est appelé à dire oui ou non, mais de l'intérieur, à partir de la réalité qui est là, dans laquelle il est immergé, plus ou moins.
Mais alors, cette morale,
eh bien, c'est une morale difficile.
Oui, c'est quand même la possibilité de faire un choix.
Précisément, c'est une morale difficile, parce que c'est une morale individuelle. Si vous comprenez, la morale n'est pas faite pour exister hors de nous, ça c'est la morale sociale. Et alors, à ce moment-là, que la politique s'occupe de cette morale sociale. Elle est absolument indispensable. Je ne veux pas la liquider comme ça aussi facilement. Mais je veux dire que, en ce qui concerne le chrétien, il s'agit de tout autre chose. Il s'agit d'un choix intérieur. Voyez. Et ça, c'est une très grande exigence. C'est le refus de l'hypocrisie. C'est, la mise à distance radicale de cette morale de la politesse, de purement sociale que Pascal élimine dans ses fameuses pensées. Je ne sais pas si vous souvenez quand il parle des rapports humains, de justice, de charité, et qu'il dit tout cela et dérision, misère, hypocrisie et tout. Alors, si vous voulez, la morale qui m'intéresse, moi, c'est la morale qui est une morale intérieure, qui est une création de l'individu, non pas pour qu'elle reste individuelle. Bien sûr, elle va s'exprimer dans une communauté, elle va s'exprimer dans une relation à autrui, mais cette relation à autrui et cette vie de communauté ne sera authentique que si l'individu la crée en lui-même. Elle n'est pas un produit, autrement dit. Toutes les sociétés modernes font comme si la morale était un produit, était une chose que l'on pouvait ainsi faire régner du dehors. C'est cela qui est l'hypocrisie et le mensonge. En réalité, elle est une création de l'homme. Voilà, elle exprime cette réalité fondamentale, c'est que l'homme est supérieur à tout. Tout conditionnement, tout milieu, etc.
Pourtant, vous avez écrit vous-même quelque part que l'homme n'était pas la mesure de toute chose. Quelle est la mesure alors de cette morale?
L'homme n'est pas la mesure de toute chose, bien sûr, parce que l'immanence et la transcendance, c'est la même chose. Mais moi, je ne veux pas savoir si cette morale prend origine dans une espèce de ciel. Tout ça, ce sont des images, ce sont des façons de parler. Je sais que je ne peux rencontrer Dieu si ce mot a un sens. C'est un mot affreux, mais enfin, les mots viennent sur la langue comme ça. Il faudrait les déconstruire à mesure. Mais enfin, je ne peux trouver Dieu, je ne peux trouver cette parole, cette inspiration qu'en moi-même. Vous comprenez? Il n'y a pas le sensible, ici, le corps, les choses, tous les objets de la vie, et puis le surnaturel. Le spirituel, le surnaturel, s'il existe, Vous voyez, je dis toujours, s'il existe, ou si je parle de Dieu, je ne peux pas ne pas mettre cet incise. Alors les gens pourraient se dire, bah, il n'est même pas sûr de croire à Dieu. Oui, c'est vrai, il faudrait parler du doute. Si vous voulez, on pourra parler un peu du doute tout à l'heure, si ça vous intéresse. Pour moi, c'est fondamental. Parce que il est suprêmement dangereux de se référer à Dieu comme ça, ou à des objets quelconques. C'est vraiment les utiliser, vous comprenez ? Les utiliser comme des moyens, utiliser Dieu comme un moyen, si vous voulez. Nous tournons autour des mots comme une chèvre qui est attachée à son piquet, et nous croyons dire quelque chose. Alors moi je préfère dire, si Dieu est, ça signifie que Dieu n'est pas, que Dieu est, Dieu n'est pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que Dieu dépasse infiniment les catégories de nos pensées. Et que toutes nos représentations doivent être affectées d'un signe d'ironie et d'humour.
Mais alors le doute, puisque le doute est continuellement présent en vous, j'oserais vous demander presque inversement, de quoi êtes-vous sûr ? Qu'est-ce qui vous permet de douter ?
Vous savez, d'abord, encore que c'est toujours difficile à exprimer, je vous dirais que intellectuellement, je ne suis sûr de rien. Que rien ne résiste pour moi à une analyse, à une réflexion. Rien. Et que, paradoxalement, physiquement, je vais dans la direction de la foi, de l'Église, tout. Je dis que c'est physique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'entraîne vers là, malgré toute la résistance de l'intelligence. Et si vous voulez, pour moi, dans ma perspective, le scepticisme, oui, j'emploie le mot scepticisme à dessein, malgré que c'est un mot, effectivement, qu'on peut suspecter. Le scepticisme, mise en question de tout, est capital pour la foi. Parce que, moi, dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup plus de crédulité que de foi. Et quand j'entends parler un certain nombre de chrétiens, je ne peux pas un instant parler de la providence, de ceci, de ça, je ne peux pas un instant les prendre au sérieux. Vous comprenez ? Alors, je crois que le doute est un meilleur support dans le monde d'aujourd'hui, est un meilleur support de la foi que ce que l'on appelle la conviction. Parce que les convictions, surtout dans ce monde de conditionnement, des mass médias et tout ça, des moyens de diffusion, la conviction, n'importe quel imbécile commence à savoir de quoi elle est faite. Elle est faite du besoin de sécurité. Les hommes ont besoin d'un enracinement solide dans des choses définies pour se livrer totalement à leur action. Vous voyez, alors ils veulent qu'il y ait un Dieu bien désigné, qu'il y ait la foi, etc., que leurs enfants aillent s'instruire des réalités spirituelles et chrétiennes et que l'affaire est réglée. Bon. Le doute, au contraire, je veux parler du doute actif. Vous voyez, le doute, parce qu'il y a aussi un doute négatif, un doute qui n'est que doute, et qui est complaisance dans le doute exactement comme la complaisance dans la conviction. Comprenez, attention, il faudrait bien préciser ça. Mais je veux dire le doute actif. C'est une marche en avant perpétuelle, une recherche perpétuelle. C'est une passion. Disons le doute passionné. C'est la conscience aiguë de la transcendance de Dieu qu'on n'est jamais arrivé à pouvoir se faire une idée quelconque de Dieu, que c'est toujours au-delà, que c'est toujours en avant.
C'est Abraham, au fond, qui est entré, enfin, qui est interpellé par Dieu, qui lui dit, va vers un pays que je te montrerai, sans lui dire, va, tu iras vers telle terre ou telle autre terre.
C'est exil. Tout le christianisme est là, dès l'origine, dans cet exil, sort de Dieu à Abraham. Et si vous voulez, l'attitude, si l'Église, si vous voulez, les chrétientés, disons, les églises ont trahi quelque chose, c'est un peu ça. Par exemple, en mélangeant les choses et en défendant à la fois la famille et l'Évangile. S'il y a quelque chose que l'Évangile met en question, c'est la famille. Non pas qu'il veuille détruire la famille, la remplacer par... Non, pas du tout. La famille, ça fait partie de la nature, c'est comme ça. Elle est là comme la pluie, la mer, le vent, le soleil. C'est bon, c'est bien, ça dépend. Bon, mais un homme, pour se trouver, doit être seul, un moment ou l'autre. Qu'est-ce que c'est que la famille ? C'est un lieu... un certain nombre de personnes qui font que l'individu ne doit jamais être seul.
Vous comprenez ? Et toujours entouré, toujours protégé.
Toujours entouré, comme la société. La société est faite à l'image de la famille impérialiste. Vous comprenez ? Esclavagie. Qui met la main sur l'individu, vous comprenez ? C'est le conservatoire des préjugés, des attachements, etc. L'Évangile dit « sort » aussi de la famille. D'où Jésus, si vous voulez, au temple, pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père ? Ou bien à Nazareth, quand il vient à Nazareth, les siens sortirent pour s'emparer de lui, car il disait, il est fou. Alors vous comprenez, et la Sainte Vierge est là parmi eux. Mm-hmm. Hein, c'est la voix du sang qui parle. Et normalement, s'il s'était laissé faire, il le ramenait à la maison, il n'y aurait pas eu de croix, il n'y aurait pas eu de message, ni quoi que ce soit. Pour faire quelque chose, d'après l'Évangile, encore une fois, il faut sortir de la famille. Vous comprenez ? Il y a un moment où la famille est nécessaire, comme l'air qu'on respire, comme bien entendu, pour que l'enfant pousse, etc. Ça peut durer longtemps, mais sortir. Tandis que, c'est là le paradoxe, si vous voulez, le monde, et le monde grec en particulier par son vocabulaire, et d'autre part l'Évangile, le monde dit « reste, enracine-toi, enferme-toi, possède », tandis que le christianisme dit « dépossède, sors, mets-toi en marche vers ailleurs, vers autre chose ». Voilà.
Jean Sullivan, je vous remercie. Donc, vous restez là, nous continuons la conversation.